France Inter.
Alexis Morel pour le journal, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. 50 patients, 100 km par jour, mais à peine 3 euros le déplacement. Les infirmiers libéraux réclament une revalorisation de leurs tarifs et ils se mobilisent à nouveau aujourd'hui à Paris. Nous avons suivi une infirmière dans sa tournée. Ils sont partout dans notre quotidien. Les PFAS, ces polluants éternels, dans le viseur d'une proposition de loi écologiste examinée aujourd'hui à l'Assemblée. De nombreux produits pourraient être interdits. Alors que décidera la majorité? C'est tout l'enjeu. Dans ce journal aussi, un premier coup de fil à haut niveau depuis un an et demi entre Paris et Moscou. Et à près de 100 jours des JO, inauguration du centre aquatique aujourd'hui et gros ménage de printemps.
Il multiplie les manifestations et actions coup de poing depuis le début de l'année.
Je ne parle pas des agriculteurs ni des chauffeurs de taxi, mais bien des infirmières et infirmiers libéraux, à nouveau appelés à se mobiliser aujourd'hui par deux de leurs syndicats. Rendez-vous à Paris pour un cortège national jusqu'au ministère de la Santé, toujours pour réclamer une revalorisation de leurs tarifs de base. Ils n'ont pas été revus depuis 15 ans, alors que le métier est selon eux toujours plus difficile. Victor Dolande a partagé le quotidien d'une infirmière en zone rurale. Reportage à Saint-Germain-les-Corbeilles, c'est dans l'Essonne.
Il est 14h, on va commencer la tournée de l'après-midi.
Eh ben on y va, je vous suis.
Infirmière libérale depuis 2016, Émilie Charron enchaîne les heures, les patients, les kilomètres aussi, entre 100 et 150 par jour. Dans les déserts médicaux, les infirmières sont souvent les seules à se déplacer au chevet des malades.
Avant, les médecins se déplaçaient à domicile, surtout dans les campagnes. Ils allaient faire leur tournée aussi, aller voir les patients les plus grabataires, les plus dépendants. Maintenant, c'est nous, sur des patients qui n'ont pas du tout la possibilité de se déplacer, c'est nous qui nous déplaçons.
Une cinquantaine de patients dans sa journée, la première c'est Bernadette.
Bonjour.
À 75 ans, elle sort d'une grosse dépression et ne peut plus se passer de son infirmière.
C'est elle qui me fait mon pilulier, elle me prend l'attention. Et puis c'est une présence pour moi aussi. Hein.
Pour cette visite, Émilie percevra 2,75 euros pour le déplacement. Ce sera à peine plus pour changer le pansement d'un patient diabétique récemment amputé.
On n'est pas suffisamment payé. Vous imaginez, vous, quelqu'un qui fasse un travail sans être valorisé depuis 15 ans? C'est pas humain.
Émilie voit des collègues arrêter le métier. Ça la triste, mais surtout ça l'inquiète pour les patients.
La France va mal. Enfin, je veux dire, si nous on disparaît, ça veut dire qu'il y a une gérance qui est nulle. Et nous faire disparaître, c'est faire disparaître les Français en fait.
Elle espère que cette mobilisation finira par payer, mais refuse d'y laisser sa santé. Dans un coin de sa tête, elle pense même à une reconversion professionnelle.
Victor Dolande, elle est sortie du coma hier soir. L'adolescente de 14 ans, violemment agressée devant son collège de Montpellier avant-hier, doit être entendue dans la journée par les enquêteurs. Dans cette affaire, trois mineurs sont toujours en garde à vue, dont au moins une camarade de la victime. Comment sécuriser justement davantage les établissements scolaires face aux violences, menaces, cyberattaques des dernières semaines? Réunion cet après-midi, place Beauvau, autour du ministre de l'Intérieur. Sont concernées au moins 150 écoles, collèges, lycées jugés plus particulièrement à risque. Elle suscite l'espoir parmi les militants de l'environnement et l'inquiétude chez les industriels, notamment les salariés du groupe SEB. La proposition de loi contre les PFAS, ces polluants éternels que l'on retrouve un peu partout dans notre quotidien, doit être débattue aujourd'hui par les députés. Texte porté par les écologistes qui prévoit l'interdiction des ustensiles des cuisines, des produits textiles ou encore des fartes de ski qui contiennent ces molécules de synthèse. Alors peut-il être adopté ce texte? Le gouvernement se dit très réservé, Claire Flochel.
Un concert de casseroles hier devant l'Assemblée nationale. Des centaines de salariés du groupe SEB rassemblés pour protester contre le texte porté par Nicolas Thiry. Un lobby assez classique selon le député écologiste.
Un lobby qu'on a vu pour l'amiante, pour le chlordécone, qu'on a vu pour le tabac dans les années 60, qui consiste en deux choses. Ils ciblent un certain nombre d'études en essayant de prouver que leur produit n'est pas nocif et il y a un chantage à l'emploi qui explique, attention, si vous protégez la santé publique, on va fermer 3000 emplois.
Depuis son passage en commission, le texte a été amendé par des députés de la majorité. L'un des amendements permettrait, par exemple, de décaler l'interdiction appliquée aux ustensiles de cuisine en 2030 et non en 2026, comme le prévoit le texte. La députée Renaissance, Claire Pitola, s'en explique.
On veut laisser un peu de temps aux industriels pour s'adapter. Aussi pour rappeler qu'il y a le droit européen sur les polluants chimiques et que c'est bien le droit européen qui nous permet d'avoir l'action la plus forte.
Claire Pitola s'en défend, mais la pression est forte sur les élus de la majorité, dit Nicolas Thiry, car le gouvernement ne veut pas de ce texte.
C'est de dire, bon, mais il ne faut pas que ça se joue au niveau français. Même quand on pourrait agir tout de suite, il faut attendre l'Europe. Il y a des pathologies qui sont associées au PFAS. Il y a le cancer du rein, le cancer des testicules, maladie cardiaque. Donc ce n'est pas acceptable de repousser constamment les choses comme ils le font.
Nous souhaitons éviter les dispositions nationales. Il faut agir au niveau de l'Europe, affirme-t-on en effet du côté de Bercy.
Et ce matin, le ministre de l'Industrie précise le plan d'action que le gouvernement prépare de son côté. Roland Lescure promet une campagne nationale de recherche des PFAS dans les eaux potables. Et pour le reste, les futures interdictions, comme on l'entendait à l'instant, l'exécutif compte mener ce combat au niveau européen. Le passerail à 49 euros par mois devient réalité dès cet été. Alors où irez-vous ? Demande ce matin Emmanuel Macron aux jeunes de moins de 27 ans. Le président n'a pas tardé à se réjouir hier soir sur le réseau X de cet accord trouvé à l'arraché entre le gouvernement et les présidents de région. Ce n'était pourtant pas gagné quelques heures plus tôt, mais donc en juillet et en août prochain, les moins de 27 ans pourront bien voyager en illimité sur TER et Intercité pour moins de 50 euros mensuels. L'Île-de-France n'est pas concernée par ce dispositif. Soirée bien stressante pour certains lycéens de terminale confrontés à une panne de Parcoursup alors qu'il fallait confirmer ses vœux d'orientation d'ici minuit maximum. Problème de disponibilité des serveurs, dit ce matin le ministère de l'Enseignement supérieur, qui en conséquence décale la date limite à ce soir 22h.
France Inter 6h06, un même appel téléphonique mais deux versions différentes à l'issue.
Oui, pour la première fois depuis un an et demi, les ministres français et russes de la Défense se sont parlé hier soir à l'initiative de Paris. Le français Sébastien Lecornu voulait évoquer avec son homologue Sergueï Shoigu le contre-terrorisme après l'attentat de Moscou. Alors que se sont-ils dit, Christian Chesneau ? Les comptes rendus dans chaque pays sont très très divergents en effet.
Entre Français et Russes, les échanges à haut niveau sont devenus rares. Ce coup de fil de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, à son homologue Sergueï Shoigu est donc très symbolique. La dernière fois que les deux hommes s'étaient parlé, c'était en octobre 2022. Lors de l'entretien, Sébastien Lecornu a condamné fermement l'attaque terroriste contre une salle de spectacle dans la banlieue de Moscou le mois dernier et rappelé la solidarité de la France avec les victimes. Il en a profité pour redire la position de Paris dans la guerre en Ukraine. Le soutien français à Kiev continuera aussi longtemps et intensément que nécessaire. Depuis Moscou, Sergueï Shoigu a fait mine de ne pas comprendre. Le ministre russe a noté une disposition de son interlocuteur français à dialoguer concernant l'Ukraine selon un communiqué relatant cet appel. Ce à quoi Paris a démenti avoir évoqué avec Moscou, lors de cet échange téléphonique, un possible dialogue sur l'Ukraine.
Et puis cette déclaration de Moscou à l'issue du coup de fil au sujet de l'attentat, pourtant revendiqué par le groupe État islamique. Nous espérons, je cite, que les services secrets français ne sont pas derrière ces attaques, dit la version du communiqué russe. En Israël, la pression politique s'accentue sur Benjamin Netanyahou en pleine guerre à Gaza. Les manifestations contre le Premier ministre ont repris ces derniers jours à Jérusalem et son grand rival Benny Gantz appelle désormais à des élections législatives anticipées dès septembre. Selon les derniers sondages, en cas de scrutin aujourd'hui, Benny Gantz, qui dirige une formation de centre-droit, arriverait très largement en tête.
C'est l'un des deux seuls équipements construits pour les Jeux Olympiques et qui demeurera ensuite.
Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui le centre aquatique olympique de Saint-Denis qui accueillera cet été les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo. L'occasion pour le chef de l'État de lancer une dernière revue de chantier après de 100 jours des JO, alors qu'ailleurs, les opérations de nettoyage s'intensifient pour faire place nette avant d'accueillir les visiteurs, comme à Saint-Quentin en Yvelines, où se dérouleront les épreuves cyclistes. Gros ménage de printemps suivi pour Inter par Océane Zitouni.
Sur 3 hectares, on trouve de tout, de la laine de verre, une paire de skis et même une cabine de douche, indigne de la France, juge Yanis, 20 ans, en route vers la cité universitaire.
Moi, je trouve ça primordial de nettoyer avant d'accueillir un événement aussi gros que les Jeux Olympiques. On va représenter un peu la France, enfin, t'es obligé de faire un centre de nettoyage pour accueillir autant de gens. Enfin, je trouve ça juste un peu dommage qu'ils le fassent juste parce qu'il y a les Jeux Olympiques, parce que je sais que sinon ça aurait été délaissé.
Lui est très optimiste à l'idée de retrouver une nature propre. Elliot Salomon travaille toute la semaine au club de voile de l'île de Loisirs.
Ça nous donne vraiment du coup une deadline. Il y a beaucoup de gens, je vois le week-end, qui se baladent ou qui viennent faire leur footing le matin. Si c'est propre, c'est tout de suite plus agréable pour se balader. Certes, il y a plein de choses qu'on aurait dû faire avant. Moi, ma crainte, c'est plus qu'on retienne que les petits points négatifs alors qu'il y aura beaucoup de choses positives.
Marie-Hélène Carbantès, la directrice du site, retiendra surtout un énorme soulagement. Ça fait 4 ans que ces déchets stagnent après l'expulsion de Camp de Rome. Elle attendait depuis décembre le feu vert de la région pour entamer le nettoyage.
Les financements ont été débloqués par la région au mois de mars. Voilà, il se trouve que les Jeux Olympiques auront lieu dans quelques mois. De toute façon, la nécessité de nettoyer cette zone s'imposait, qu'il y ait ou pas les Jeux.
Un grand ménage à 700 000 euros qui prendra fin d'ici à début juin.
Un but de Kylian Mbappé, le PSG file en finale de la Coupe de France de foot. Victoire 1-0 hier soir contre Rennes. Les Parisiens tenteront le 25 mai prochain face à Lyon de remporter ce trophée pour la 15e fois de leur histoire.
Alexis Morel, on défait les crampons et on enfourche un vélo pour l'Esprit Sport. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Mathilde.
Paris-Roubaix, c'est ce week-end avec côté féminin, notamment la Française Victoire Berthaud.
Oui, l'enfer du Nord, hein, comme on le surnomme, n'est pas réservé qu'aux hommes. Paris-Roubaix a également sa version féminine depuis 4 ans avec un parcours comme pour les hommes, exigeant, semé de nombreux pavés, 17 secteurs au total pour le peloton féminin où l'on va donc retrouver la Française Victoire Berthaud, bientôt 24 ans, sacrée championne de France sur route l'été dernier. Et la nordiste plante tout de suite le décor de cette course si particulière.
C'est difficile parce qu'en fait, dès que tu arrives sur le premier secteur, tu as l'impression d'être dans un tracteur pendant 80 km. C'est très nerveux et c'est très dangereux aussi sur les pavés, surtout quand c'est humide. Quand tu arrives sur le vélodrome, tu as des cloques partout, tu as mal partout. Ouais, c'est vraiment l'enfer et ça porte vraiment, vraiment bien son nom.
Et elle, c'est une spécialiste des pavés.
Ça fait envie quand même. Ouais. Hein. Oui, c'est le genre de course qu'elle apprécie. Elle vient d'ailleurs de se classer 14e du Tour des Flandres. Mais Victoire Berthaud est aussi performante sur piste. Elle sera d'ailleurs cet été aux Jeux Olympiques de Paris avec ses coéquipières de la poursuite par équipe pour tenter de décrocher une médaille. Elle aime en fait toutes les disciplines du cyclisme, sport qu'elle s'est mise à pratiquer après quelques réflexions de sa mère.
Quand j'étais jeune, en fait, je faisais de la danse et ma mère me trouvait pas assez délicate pour faire de la danse. Et mon grand frère faisait du vélo dans le club à côté. J'ai décidé de suivre et puis voilà, ça a commencé comme ça, le vélo, et depuis je me suis jamais arrêtée.
Et ce sera après-demain sa 3e participation sur Paris-Roubaix. Elle a également pris part une fois au Tour de France, c'était en 2022.
Cédric Guillot pour l'Esprit Sport.